Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Et dans un instant, nous allons découvrir Plus jamais seul, c'est le nouveau polar de Caryl Ferret, la star française de la série noire. Bernard Lehu a rencontré l'écrivain. L'humoriste Fabrice Eboué est de retour sur scène avec Plus rien à perdre, un nouveau one-man show qui a séduit Monique Younes. Musique avec Charlotte Latour, les formations les plus renommées de l'armée française sont en tournée partout en France jusqu'en avril et sont réunies pour la première fois sur un album qui propose des marches militaires et des grands airs d'opéra. Et puis nous entendrons Marianne Chazelle et Sylvie Testu au micro de Laurent Marsic. Les deux actrices auront les rôles principaux de la toute première création française de la plateforme Amazon Prime Video. Il s'agira d'une comédie en 10 épisodes. Et puis bien sûr, Isabelle Morini-Bosque nous proposera son plateau télévisé du soir.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Bernard Lehu, bonjour.
Bonjour.
Vous nous proposez Plus jamais seul, le nouveau polar de Caryl Ferret, l'un des meilleurs auteurs du genre aujourd'hui en France, publié dans la série noire. Caryl Ferret est devenu en fait la tête d'affiche de la mythique collection policière de Gallimard.
Et Caryl Ferret, c'est d'abord un personnage à lui tout seul. La cinquantaine juvénile, une silhouette de rocker baroudeur, jean, perfecto, bandana autour du cou et anneau à l'oreille gauche. Baroudeur, les polars qui ont fait son succès le sont aussi dans Zulu en Afrique du Sud, Mapuche en Argentine ou Condor au Chili. Ferret déployait des intrigues haletantes sur fond historique et politique, qu'il s'agisse de l'apartheid, des dictatures ou de la corruption.
Alors oui, mais dans Plus jamais seul, l'écrivain revient en France et puis signe le retour de son héros fétiche.
Macash, un breton comme Caryl Ferret, d'origine irlandaise, d'où son nom, ancien flic, borgne, revenu de tout, buveur, bagarreur, justicier solitaire, un formidable personnage, l'un des plus originaux du polar français que Caryl Ferret n'est pourtant pas allé chercher très loin.
En fait, c'est un peu l'avatar d'un ami que j'ai depuis l'adolescence, en fait, quoi, qui est borgne, enfin, qui a perdu un œil en un accident de moto, ivre-mort, c'était en Bretagne, et qui porte un bandeau. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est que ça a complètement changé à la fois sa personnalité et surtout le regard des autres sur lui. Puis bon, il se trouve que ce personnage aussi est très haut en couleur. Et mon pote, je l'amène souvent en voyage avec moi parce que c'est un sketch ambulant. Et du coup, Macash, voilà, c'est un peu une excroissance de ce personnage, alors évidemment avec du roman derrière.
Alors pour pimenter les retrouvailles avec son ex-flic pittoresque, Caryl Ferret, l'affuble d'une fille, Alice, une ado tombée du ciel, fruit inattendu d'un coup d'une nuit, et voilà l'ours Macash contraint par la poupée Alice d'apprendre sur le tas et sur le tard la paternité.
Je suis père moi-même, hein, donc c'est toujours une surprise. D'ailleurs, enfin, on me dit « Ah, ça c'est ta fille et tout ». On fait un espèce de couple un peu étrange, en fait, parce que, bon, voilà, il y a un côté...
Enfin, vous, c'est pas une fille qui est tombée du ciel, comme ça, comme ce qui arrive à Macash.
Non, mais un petit peu, d'une certaine manière, quoi. Mais bon, moi, étant très fleur bleue, donc bon, la question s'est pas posée, quoi. La seconde où je l'ai vue, j'ai dit « Ah, pardon, excusez-moi, ça c'est la vie qui est là, Macash ». Et là, il est au summum de sa contradiction, parce que c'est l'engagement suprême. Alors là, pour lui, c'est la catastrophe. La tendresse le rend malade, quand même, quoi. Mais il peut pas s'empêcher de l'aimer, parce qu'il a un cœur, quand même. Et puis, cette gamine, elle est marrante.
Alors, néanmoins, pour qu'il y ait un polar, il faut un crime, une énigme, une enquête. Que va-t-il se passer dans Plus jamais seul ?
Bon, je vous rassure, Yves, Macash apprend la mort en mer de son vieux pote Marco, un navigateur pourtant hors pair. Et là aussi, c'est étonnant, Caryl Ferret n'est pas allé épuiser son idée bien loin.
En fait, j'ai un ami qui a disparu en mer il y a une dizaine d'années. Bah là, il s'est pris un cargo dans la gueule. Du coup, c'est le Marco qu'il y a dans le livre. Hein. Enfin, c'est le même. Hein. Toutes les tempêtes qu'il a essuyées. Enfin, c'est un personnage qui était complètement fou. Vraiment super drôle. Brillantissime. Il était avocat par ailleurs. Grand marin. Et il a disparu en mer. Et en fait, quand quelqu'un disparaît en mer, on ne peut pas faire le deuil. Parce qu'il n'y a pas de corps. En fait, quoi. Donc, on a toujours 1000 questions. Est-ce qu'il est vraiment mort? Est-ce qu'il s'est pas échappé quelque part? Enfin, ça devient romanesque. Mais en fait, c'est quand on vit des chocs émotionnels comme ça, pour moi, c'est un hommage, en fait. Quoi. C'est un hommage à mon ami disparu.
Alors, Macash va donc enquêter sur la mort de son ami navigateur. Il découvre que son voilier a été volontairement heurté par un cargo, là aussi, un assassinat en pleine mer, qui va le conduire, Macash, sur la piste de passeurs de migrants sans foi ni loi dans les bas-fonds du trafic d'êtres humains, où les proies les plus malmenées, eh bien, sont les femmes.
Mais c'est assez épouvantable, mais ça, c'est la réalité. Moi, j'invente rien. Hein. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est la réalité. Mais quand on voit tous ces gens qui arrivent, quand ils arrivent aux portes de l'Europe, déjà, les femmes, elles ont de grandes chances d'avoir été violées. On leur a volé les enfants, on fait chantage aux enfants. Alors, tu vas te prostituer pour qu'on sauve ton enfant. Enfin, elles sont dans des... Elles sont aux mains. Avant d'arriver à l'Europe, elles ont traversé plusieurs régions avec plusieurs passeurs. Et chaque passage est déjà... c'est des héros. Hein. Ceux qui arrivent chez nous, c'est quand même des héros.
Et alors à la puissance de son intrigue, Caryl Ferret eh bien, ajoute donc une touche passionnante d'actualité, mais sans verser dans le polar bien-pensant, militant, le gnangnan, comme il dit. Pour lui, prime d'abord sa jubilation et qui nous fait partager à retrouver les personnages hauts en couleur qu'il aime, son ex-flic, McCash, bien entendu, et les autres.
J'ai pris beaucoup de plaisir à décrire mon ami disparu en mer.
Marco.
Marco, ouais, il avait tellement d'anecdotes de dingue. Une seule, hein, la Fastnet, une course où il y a eu des dizaines de disparus, tous les bateaux qui étaient sous l'eau, 79 en mer d'Irlande, la plus grosse tempête qu'il y a eu en mer d'Irlande. Il était avec Hoguin, qui est devenu un grand navigateur, donc c'est avec lui qu'il a fait les courses au large. Ils avaient 14 ans, ils se sont retrouvés pris là-dedans avec un adulte qui était le capitaine. Ils ont fait trois fois 360 en bateau, donc ils ont failli couler.
Enfin, le bateau qui fait un tour complet sur lui-même.
Ouais, ouais. Ce qui doit être juste absolument terrifiant. Et l'adulte avait tellement peur qu'ils voulaient sortir, ils devenaient fous, ils ont été obligés de l'attacher. Les deux ados. Voilà, il commence sa carrière de navigateur par un truc juste de dingue. Et raconter, enfin, ça c'était assez agréable, quoi.
Voilà, Caryl Ferret, le baroudeur du polar français qui publie l'excellent, hein, vraiment Plus Jamais Seul, dans la mythique série noire chez Gallimard.
Merci beaucoup Bernard Lehut. Dans un instant, nous avons rendez-vous avec Monique Younes et je peux vous dire qu'on va passer un excellent moment grâce à Fabrice Eboué.
RTL Matin,
laissez-vous tenter,
avec Yves Calvi.
Monique Younes, bonjour.
Bonjour.
Vous nous parlez donc ce matin du nouveau spectacle de l'humoriste Fabrice Eboué, Plus rien à perdre, qu'il joue au Théâtre de la Renaissance à Paris avant une tournée en région.
Oui, Fabrice Eboué n'a plus rien à perdre, il a 40 ans et il a plusieurs copines négrophiles.
Ma meilleure amie est comme ça, elle est négrophile, il faut le dire. Un jour je lui dis, mais pourquoi tu sors qu'avec des noirs? Elle me dit, je sais pas, j'aime bien, j'ai un feeling, vous sentez le pain d'épices. Elle me dit, non mais pas toi, t'es que métisse. Ah donc moi je sens rien, même pas le 4 quarts. Elle me dit, non mais tu comprends rien, c'est juste que quand je suis avec un noir dans la rue, je me sens en sécurité. Mais par rapport à quoi? Les hyènes, les lions.
Eboué revient donc sur son parcours. Il s'est passé tellement de choses depuis son tout premier spectacle, notamment avec les écologistes qui ne l'ont pas raté quand il a protesté contre la journée sans voiture à Paris.
J'ai eu des gens qui m'ont mis des trucs sur les réseaux. Il y a un mec qui m'a mis « Ouais, bah si t'aimes pas Paris, t'as qu'à rentrer à Fort-de-France. » Mon père est camerounais. Et il m'arrive de temps en temps dans des petits jeux coquins avec ma femme de me faire fouettouiller un peu, de là à faire de moi un entier.
Voilà, il balance, Fabrice Eboué, plus rien à perdre. Sur les pays du Golfe, par exemple, écoutez.
Non, mais c'est vrai, c'est quand même des pays qui pratiquent encore la loi du talion. Tu voles une pomme, il coupe la main. Tu voles une meuf, il coupe les cheveux à cette salope, il la lapide.
Il révoltait contre tout, notre Fabrice Eboué, dites-moi.
Et surtout contre tout le monde. Pourtant, rien ne le prédestinait à ce mauvais caractère. Il a été élevé dans une famille mixte, tolérante, un père camerounais, vous venez de l'entendre, une mère normande. Oui. Lui-même est marié à une musulmane.
Un jour, ma femme, elle avait ramené du Maroc une petite mosquée en terre cuite. Elle arrive, elle met ça dans la chambre de mon fils. Je lui dis, je croyais qu'on était un couple laïque. Elle me dit, oh, ça va, c'est juste une mosquée de déco. Je dis, oui, on connaît. Puis après, c'est le Coran de déco, la calage de déco, on connaît. Je lui dis, c'est ton gamin, fais ce que tu veux. Le lendemain, elle vient me voir, elle me dit, c'est toi qui as mis un cochon devant la mosquée?
Alors, le métissage lui a pris la mesure. D'ailleurs, écoutez comment il éduque son fils.
Un jour, mon fils, il est venu me voir, il m'a dit, mais moi, papa, qu'est-ce que je suis? Plus tard, ce sera quoi ma religion? Je lui ai dit, tu choisiras. La religion de papa ou la religion de maman, oui. Tu choisiras. J'ai dit, c'est deux belles religions. La religion de papa, c'est la religion où on cache des œufs en chocolat à Pâques. La religion de maman, c'est la religion où on égorge des moutons. Tu choisiras.
Alors, si Fabrice Eboué laisse à son fils la liberté de choisir sa religion, il est plus dubitatif sur son éducation. Vous savez, l'éducation nationale en France, ça devient vraiment compliqué.
J'ai un neveu, par exemple, il a 11 ans, ils n'ont plus de notes à l'école, ils ont des couleurs. L'autre jour, il revient avec son devoir de maths, je lui dis, t'as eu combien? Il me dit, j'ai eu jaune. Je lui dis, c'est bien, il me dit, bah, la moyenne de classe, c'est rouge. Je lui dis, ouais, c'est pas mal. Non, il paraît qu'il ne faut plus dévaloriser les élèves. Bientôt, ça va être pareil pour les salaires. Tu gagnes combien? Je suis à bleu, moi, cette année. Puis maintenant, t'as toutes les réformes de grammaire. Vous avez vu, là, la dernière, la grammaire inclusive, c'est les féministes qui ont dit, ouais, c'est une honte que le masculin l'emporte sur le féminin. Et du coup, t'as plein de communautés maintenant qui commencent à avoir des revendications grammaticales. Moi, j'ai un pote à moi, il est nain, il veut faire interdire les majuscules.
Bon, c'est devenu rare, hein, les humoristes qui collent, on va dire, de si près à l'actualité.
Oui, mais Fabrice Eboué précise qu'il est comique, pas politique. Et il nous prévient dès le début de son spectacle, on peut rire de tout, notamment de cette nouvelle religion qui envahit la France, le véganisme. Ah, oui. Alors, je rappelle que les véganes ne sont pas les utilisateurs de Vélib, mais des personnes qui ne consomment rien qui provient de l'animal.
Moi, j'ai eu une nourrice végane. À mon fils, elle usait que des légumes et des fruits écrasés. Un jour, je lui dis, c'est sympa, mais pour un enfant, il faut des yaourts, par exemple. Elle dit, ah non, moi, rien qui provient de la vache. Je lui dis, vous peut-être, mais mon fils, si. Elle me dit, bah, votre femme a qu'à faire des yaourts avec son lait. Je dis, oui, puis moi, je fais les petits suisses. Ah, les véganes! Le concept des véganes, en gros, c'est tous les êtres vivants se valent. En gros, un végane, il est au bord d'une rivière, il y a un castor et un petit garçon en train de se noyer, il hésite, il est là. Me dis pas un homme égal à une huître, je veux dire, mais... Après, je reconnais qu'il y a de la maltraitance sur certains animaux, évidemment. On a vu encore récemment les abattoirs de lapins en batterie. C'est... Alors, une fois de plus, comparons ce qui est comparable, parce qu'il y avait un végane à la télé qui disait « Oui, les abattoirs de lapins, c'est une honte, c'est pire que des camps de concentration. » Moi, mon fils, je lui ai jamais offert un juif en plus.
Voilà, cinglant, Fabrice Eboué. Il faut le voir mimer la caissière végane mollassonne dans un supermarché. C'est un must. Fabrice Eboué n'épargne personne, surtout pas lui-même. Adepte de la dive bouteille, accro au Nutella, ses piques cinglantes vont de plus en plus profond dans la bêtise humaine. Alors, pour arriver à ce feu d'artifice complotiste qui clôt le spectacle, Eboué balance et s'en balance. Il n'a plus rien à perdre, car de toute façon, il ne peut plus rien lui arriver, puisque son one-man show se joue au Théâtre de la Renaissance à Paris, puis en tournée en région.
On a passé un excellent moment avec Fabrice Eboué et avec vous. On va donc parler télévision maintenant, à commencer par les audiences, Isabelle Morini-Bosque avec Médiamétrie.
Eh bien, qui est en tête? Les Bobbits contre les Bobbits, dont nous avons parlé hier. 3 400 000 téléspectateurs et 14% du public sur France 2. C'est nettement devant Blacklist sur TF1, qui de toute façon est relégué en seconde partie de soirée, là, dès la semaine prochaine. Et sur TF1, Blacklist, c'est 2 800 000 téléspectateurs, à peine 170 000 de plus que Top Chef, qui garde tous ses fidèles sur M6 en face. Dans les deux cas, 14% du public, 13% du public sur chacune des deux chaînes. Et côté TNT, c'est TFX qui est en tête avec, devinez quoi, Joséphine Ange-Gardien, 680 000 téléspectateurs.
Voilà. Plusieurs suites de séries ce soir, hein, sans oublier Prof sur TF1. Vous n'aviez pas été vraiment enthousiaste jeudi dernier, ça s'améliore?
Là, j'ai voulu vérifier pour donner une chance au produit. En fait, les intrigues du jour se tiennent, notamment le meurtre d'une jeune footballeuse, mais ça ne fonctionne pas comme ça devrait. Si le personnage principal est réussi, le criminologue Julien Tardieu, tout en doc et, dans toc et en phobie, certains autres sont taillés à la serpe et plutôt grossièrement définis. Le chef de groupe, par exemple, semble parler en décalage, vous savez, comme quand vous interviewez quelqu'un qui est au loin. Et l'écran semble très vide. Alors, je pense que les figurants étaient occupés ailleurs. Or, dans court échantillon, notre toquet, le criminologue, croit que tout le monde a deviné qu'il avait eu jadis une liaison avec la patronne du commissariat.
Professeur, je voulais...
Oui, j'ai eu une relation avec votre commissaire. D'autres questions?
Je voulais juste vous demander si vous vouliez m'accompagner au club de foot où jouait Vanessa.
Voilà, c'est court, c'est bref. Donc 21h ce soir sur TF1. 6 épisodes, ça va être dur pour qu'il y ait une grosse montée chromatique.
On a bien compris. Alors l'événement, ben, ce soir, il est sur Canal+, avec le retour de Gomorra. C'est la série 100% mafia.
Oui, c'est la saison 3. Et comme les deux précédentes, elle est très esthétique et 100% violente, 100% façon hémoglobine, hein, SANG. C'est une série très réussie où ça gicle un peu trop pour moi. Je trouve qu'il y a une sublimation de la brutalité que je trouve un peu gênante. Tout comme commence par la mort du parrain Don Pietro, qu'on regarde de très longues minutes sur une musique lancinante. Un petit côté boléro de Ravel postmoderne.
Massacré.
Voilà. Dans cette troisième saison, entre en scène Gennaro, fils de Don Pietro, dénué de toute finesse, qu'elle soit corporelle ou cérébrale. C'est lui qui a commandité l'assassinat de son père. C'est Brutus qui veut faire son trou. Mais c'est, si j'ose dire, un trou de balle. Hein. Il tire comme il respire, au point qu'on a parfois qu'il se tire. À noter qu'on retrouve tous les personnages des saisons précédentes. Enfin, ceux qui sont encore, vivants, évidemment. Mais c'est... Objectivement, c'est très réussi. Je n'accroche pas complètement, mais c'est très réussi.
Alors, vous avez aimé visiblement davantage Occupied sur Arte?
Ah oui, ça m'a eu par surprise. Sa formidable série. C'est moins le thème qui m'intéresse, l'occupation progressive de la Norvège par les Russes, que le traitement. C'est constamment clair, avec des personnages complexes, évolutifs, attachants, des héros ou des zéros au fil des circonstances. Au début de cette nouvelle saison, la Russie a donc pris le contrôle de la Norvège avec la bénédiction de l'Union européenne, annexée pour avoir mis en péril l'équilibre économique mondial en voulant abandonner le pétrole et le gaz au profit des énergies renouvelables. La Norvège oscille désormais entre résistance et collaboration. Comme son pays, le Premier ministre est très occupé, mais a préparé la suite depuis la Norvège, même si officiellement il passe son temps à batifoler avec son ex-collaboratrice et à jouer aux jeux vidéo comme là.
Tu ne peux pas agir sur le plan politique depuis la Suède, alors pourquoi ne pas revenir en Norvège et employer tes forces à faire ce que tu sais faire de mieux ?
Je viens de me faire descendre. Je crois que c'est un signe.
Les choses sont différentes. On a un autre genre de dialogue avec les Russes.
Évidemment, vous avez un autre genre de dialogue avec les Russes, vu qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent.
Je comprends pas ce que tu espères obtenir de ton exil volontaire.
En fait, ils communiquent avec les résistants via le jeu. Mmh. Et donc, c'est très... Moi, je trouve vraiment cette série subtile. Je devrais pas aimer, et j'adore. Les personnages sont très attachants. J'ai été très attachée. Ça, c'est donc sur Arte, à 21h.
Merci beaucoup, Isabelle Morini-Bosque. Alors, les séries se consomment aussi beaucoup à la carte, hein, maintenant, sur les plateformes que sont, par exemple, Netflix ou Amazon. Amazon Prime Video, qui a justement présenté hier sa toute première création française. Laurent Marsic, bonjour.
Bonjour.
Pour se développer, Amazon a décidé de parier sur la comédie Made in France.
Exactement. Amazon est en fait présent chez nous depuis un an à peu près, mais soyons clairs, de façon plutôt confidentielle, avec un catalogue plutôt riquiqui. Le géant américain passe donc à la vitesse supérieure et se lance avec les producteurs Newen, ceux qui font Plus belle la vie, Demain nous appartient, et l'allemand Bavaria Films dans la création d'une série, une comédie baptisée Dutch Les Landes, comédie de 10 fois 26 minutes. Pour cette série, la production a confié l'écriture aux scénaristes de Bienvenue chez les Ch'tis, Alexandre Charlot et Franck Magnier, et au casting, Sylvie Testu, Marianne Chazelle et Roxane Durand, qu'on avait vu dans La Famille Bélier. L'histoire est tirée de la crise grecque. À l'époque, les Allemands avaient vraiment suggéré à la Grèce de vendre quelques îles pour se renflouer. Partant de là, les auteurs ont imaginé la même chose chez nous. Dutch Les Landes, c'est l'histoire de Giscalos, un peu comme Biscarrosse, village fictif du département des Landes, un village au bord de la faillite dont la mère Martine, Marianne Chazelle, a vraiment besoin d'argent pour le sauver. La suite, c'est Marianne Chazelle qui la raconte.
Et là, il faut qu'elle trouve une solution pour renflouer son village. Et elle a cette idée baroque et saugrenue à la suite de cette rencontre avec un homme d'affaires allemand extrêmement puissant, riche, est très inventif, complètement allumé. Et il a une idée, pof, allez, je vais aller là, j'installe mes gens là, je dis à toute ma troupe de créatifs de venir, je les loge là et puis on verra bien ce que ça donne. Et donc elle saute sur l'occasion parce qu'évidemment ça va ramener de l'argent au village. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout ce que croient les gens du village, c'est-à-dire tiens, une entreprise, c'est pas mal, maintenant les gens sont plus ouverts sur les délocalisations d'entreprises. Non, non, c'est que les gens vont venir vivre, donc devenir des habitants, devenir des voisins. Et donc on va partager les mêmes restaurants, on va partager, les enfants vont aller à l'école et il faut apprendre à vivre ensemble.
Voilà, c'est donc la première production française d'Amazon Prime Video, une plateforme qui, comme Netflix, taille des croupières aux chaînes de télé et se lance avec un format qui ne marche pas toujours à la télévision, le 26 minutes, mais qui cartonne sur la vidéo en ligne. D'ailleurs, Sylvie Testu, la prof d'allemand dans la série, ne cache pas qu'elle vient de tomber dedans avec délectation.
J'avais un petit snobisme. Moi, je suis quand même assez cinéphile, je vais beaucoup au cinéma. D'ailleurs, j'ai commencé par le cinéma. Et petit à petit, en fait, par le père de mes enfants, quoi, qui regarde beaucoup de séries. Une fois, je me suis assise là. D'ailleurs, Kabul Kitchen, c'est à peu près le même format, qui est quand même une série que j'aime beaucoup. Et puis petit à petit, j'ai vu plusieurs séries. Je suis devenue addict.
Alors, Dutch Les Landes, ce sera bientôt en tournage du côté de Bordeaux.
Alors, si je comprends bien, au fond, Amazon essaye de la jouer comme Netflix, qui présentera d'ailleurs dimanche à Marseille la deuxième saison de sa création française Marseille, avec Gérard Depardieu. Ces plateformes travaillent avec les producteurs locaux plutôt que de les affronter.
Exactement. Hein. On pourrait voir ça comme une façon délicate de s'introduire sur le marché français plutôt que de débouler avec une grosse production américaine. Fabrice Larue est le président de Newen, propriété de TF1.
Le niveau d'exigence de la production est de plus en plus importante et on ne peut pas se suffire des financements français. La preuve sur Versailles, un tiers a été financé par la France et deux tiers par l'étranger et nous l'avons vendu dans 135 pays. Donc il faut absolument, nous, pour aller chercher de la croissance en dehors de la France, qu'on augmente les coproductions internationales et la distribution internationale. Il y a un vrai savoir-faire made in France, à nous de l'exporter.
Diffusion à la fin de 2018 en France et en Belgique, donc sur Amazon Prime Video, qui pour l'instant se regarde sur les télés connectées, celles qui sont connectées à Internet ou via leur application d'Amazon. Il n'y a pas encore d'accord, comme pour Netflix, avec des opérateurs Internet. Donc ne la cherchez pas sur votre box, Yves.
Non, je ne vous inquiétez pas, j'avais compris, bien que je ne sois pas très doué pour ce genre de choses. Dans quelques instants, Charlotte Latour et l'armée française en tournée avec ses orchestres.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Le grand retour de la musique maintenant. L'armée française est en tournée, mes enfants, jusqu'en avril. Les différentes formations de l'armée sont sur scène pour interpréter aussi bien des marches militaires que des airs d'opéra. Charlotte Latour, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes allée rendre une petite visite à la garde républicaine et vous avez été très agréablement surprise par ce que vous y avez entendu.
Absolument. Visite passionnante puisque j'ai pu promener mon micro au sein de la caserne des Célestins à Paris, entre la place de la Bastille et la Seine, et entendre la fanfare de la cavalerie et le chœur de l'armée répété.
Que dites-vous du régiment qui passe, musique en tête et son drapeau flottant. Regardez donc tous ces gens bien en face, dont il
joyeux pour aller au combat.
Mais oui, oui. L'armée française donc est en tournée, se retrouve sur scène pour des concerts de plus de 2 heures. Écoutez bien, la Légion étrangère, le Bagad de l'Anbiwe, formation de la Marine nationale qui fait dans la musique bretonne, la fanfare de la cavalerie, de la garde républicaine et le chœur de l'armée. Ça fait beaucoup de monde et chaque formation a sa spécificité. C'est surtout le chœur, moi, qui m'a bluffé. Déjà parce que je l'ai trouvé plein d'émotions, avec une interprétation ni ampoulée, ni lourde ou sans nuance, comme je le craignais un petit peu. Et puis surtout, il y a à sa tête une femme, Aurore Tillac, forte personnalité, et il en faut pour diriger ce chœur composé de 45 chanteurs, des hommes uniquement.
Ben, la parité respectée, les femmes commandent, et puis voilà. Non, c'est, ça s'est trouvé comme ça. Mais quand j'ai passé le concours, il y avait aussi des hommes qui passaient le concours.
Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne ? Oh, les partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes.
Un chant des partisans articulé, nuancé, plein de douceur, très joli moment.
Oui, puis pour une fois, on comprend le texte. Alors, d'où vient cette chef de chœur ? Elle était déjà dans l'armée quand elle a été recrutée à ce poste ?
Alors, pas du tout. Elle était, comme beaucoup de ses confrères, intermittente. Elle a postulé en se disant, tiens, pourquoi pas ? A pris le poste en 2005 et la voici aujourd'hui, du haut de ses 38 ans, lieutenant-colonel.
Oui, je suis lieutenant-colonel.
Comment on passe du conservatoire à lieutenant-colonel ?
Non, c'est la fonction qui veut ça. Vous postulez pour être chef de chœur, mais en tant que responsable d'une unité, vous avez un grade qui correspond. Et au départ, j'étais adjointe, donc j'étais capitaine. Après, je suis passée chef dans commandant. Et puis, comme je n'ai pas dit trop de bêtises jusqu'à présent, mais je suis passée lieutenant-colonel.
Cœur des soldats, extrait de Faust de Gounod. Alors c'est intéressant ce parcours assez classique de musicienne. Hein. Souvent dans l'armée, on entre dans l'armée, on se spécialise et puis on peut s'orienter dans la musique. Mais au sein de l'orchestre de la garde et du chœur, les choses sont donc un petit peu différentes. Les recrutements se font dans le civil et on devient militaire une fois le concours obtenu. Après une courte formation, pas besoin d'être forcément issu d'une école de gendarmerie. D'ailleurs c'est la même chose pour le capitaine Jacques Leblay. Lui, attention, c'est le trompette-major et chef de la fanfare de la cavalerie de la garde républicaine, interrogé aux côtés de son cheval de 6 ans, Baccara, qui ouvre chaque année le défilé du 14 Baccara, juillet et qui donne la cadence.
Alors moi j'ai commencé en Bretagne, dans une harmonie municipale, à Hennebon, près de Lorient. Et donc à l'âge de 19 ans, j'ai commencé par le cornet à piston et je faisais un peu de chorale aussi. Et ensuite, donc j'ai postulé pour la fanfare de cavalerie parce que j'avais vu ça à la télé, ça me plaisait bien. Je me suis dit tiens, pourquoi pas un jour faire ça. Et je suis arrivé à la garde républicaine en 1983. Et donc j'ai passé les examens en interne, etc. Et donc je suis le trompette-major depuis 2002, ça va faire 15 ans.
Jacques Leblay, 31 défilés du 14 juillet à son actif et ici dans cet extrait d'Aïda de Verdi. Mais il n'y a pas que le protocole et le défilé quand on est musicien dans l'armée. Le programme est même assez chargé.
On fait des concerts, on va dire tout le temps, c'est un peu vite fait de dire ça, mais on a une coproduction avec l'Opéra de Bordeaux, par exemple. On fait des concerts aussi pour à la Philharmonie de Paris, au Théâtre des Champs-Élysées. On travaille avec plein de gens dans le monde plutôt classique. On fait des concerts partout en province où les gens souhaitent entendre le chœur et nous, on va un petit peu à la rencontre de notre public déjà. Et après, on fait du protocole, on fait aussi des dîners d'État, enfin, on fait plein de choses très, très variées.
Musique musique militaire, grands airs d'opéra, le spectacle donné en tournée reprend en partie l'album sorti juste avant les fêtes, hein, dont sont extraits tous les airs entendus ce matin. L'armée française donc en concert, je vais vous donner quelques dates. Le 3 mars à Lyon, le 4 mars à Dijon, 17 mars à Strasbourg, le 18 à Rouen, le 24 mars à Nantes, le 25 à Brest, 7 avril à Tours et 8 avril à Rennes, entre autres.
Je leur prédis un énorme succès.
Oui, je crois que c'est pas mal parti.
C'est pas mal parti.
Ouais.
Merci beaucoup Charlotte Latour. On se retrouve dans quelques instants pour se dire au revoir et accueillir Julien. Une allitération Courbet.
RTL.
RTL. Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, les partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes.
Je suis un peu fleur bleue, moi ça m'émeut à chaque fois ce chant. Quoi. Le texte, la musique. Bon voilà, on va pas se laisser prendre par l'émotion parce que
texte de Kessel et Maurice Druon, l'oncle et le neveu.
Musique d'Anna Marley. Oui. Bon voilà, on va pas rentrer en résistance nous, hein. On va être plus simple que ça.
Pourquoi
Je ne sais pas, enfin pas tout de suite, puisque nous ne sommes pas occupés. Salvatore Adamo sera demain notre invité spécial dans Laissez-vous tenter pour son tout dernier album qui s'intitule Si vous saviez. Au bon, on va entendre un petit morceau. Hein. Vous demain dans Laissez-vous tenter avec Salvatore Adamo. Alors, il est magnifique hein, sur sa photo, avec des très jolies chaussettes quasiment d'évêque, rouges.
Rouge, oui, voilà. Et en chaussettes sur la pochette.
Oui, en chaussettes sur la pochette. En fil d'Écosse, je pense. Enfin, on l'interroge. On tâchera de lui poser des questions un peu plus intéressantes demain. Je m'y engage, oui, pardon.
Et je signale la retransmission des Globes de Cristal sur TV5 Monde pour revoir le sacre de Juliette Armanet, meilleure interprète de l'année, comme l'avait prédit dans... Toute cérémonie confondue, Steven.
Absolument,
Bellery.
Steven Bellery. Voilà, on s'est à peu près tout dit, donc maintenant, on peut accueillir Julien Courbet.
Si, je ne le verrai peut-être pas demain, mais demandez à Adamo s'il porte des slips ou des caleçons. Parce que j'aimerais, c'est des questions qu'on aimerait lui poser également.
Il faut être précis dans l'information. Il a des sockets en fil d'Écosse rouge magnifiques et il nous les montre. Voilà.
Il montre que ça, j'espère.
Avec une belle paire de bretelles rouges aussi.
Bah, très bien.
Voilà, il est très élégant.
Écoutez, tant mieux. Mais voilà, ça donne envie d'écouter demain. On y sera. Merci beaucoup.
Bonne émission.
Vous avez bien teasé.
Vous écoutez RTL.